Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, maintien de l'ordre, c'est quoi ce bordel ? Davantage de manifestants, mais moins de violence. À l'issue du 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur n'a pas boudé son plaisir. Les consignes, les bonnes consignes ont été appliquées. Les résultats sont là. L'ordre républicain a été maintenu. C'est félicité Christophe Castaner. Il faut dire que le dispositif avait été renforcé. Davantage de contrôles, des périmètres interdits de manifestations, comme les Champs-Élysées à Paris, et l'appui des militaires de la force Sentinelle, lesquels ont sans doute joué un rôle dissuasif, rien à voir en tout cas avec le week-end précédent. Or, depuis le début de ce mouvement, le gouvernement multiplie les annonces et les dispositifs sécuritaires. L'amende pour participation à une manifestation interdite vient de passer de 38 à 135 euros. L'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense, a explosé depuis la création des détachements d'action rapide. Quant à la loi anti-casseurs, en attente de validation par le Conseil constitutionnel, elle transforme la dissimulation du visage en délit et autorise l'interdiction administrative de manifester. La doctrine de maintien de l'ordre s'en trouve-t-elle profondément modifiée ? En tout cas, elle en devient illisible. Alors, maintien de l'ordre, c'est quoi ce bordel ? C'est la question de ce soir, en compagnie de trois invités. Marion Guémas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est une association d'utilité publique. Vous êtes responsable des programmes France, police, justice, prison, l'ACAT qui a publié plusieurs communiqués sur le maintien de l'ordre par rapport justement à ce mouvement des Gilets jaunes. Pour discuter avec vous, Jacques de Maillard, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur des universités en sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes le directeur adjoint du CESDIP, Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et on vous doit notamment Police comparée, c'est au pluriel, vous l'avez publié en 2017 aux éditions LGDJ. Et puis en duplex des studios de France Bleu Héros à Montpellier, notre troisième invité, Bertrand Cavalier, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes général de gendarmerie, spécialiste du maintien de l'ordre, ancien commandant du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier en Dordogne, un centre d'entraînement qui est un des principaux centres justement d'entraînement en la matière. Alors je voudrais commencer, d'ailleurs avec vous Bertrand Cavalier, à propos des propos de Christophe Castaner, à propos de ce qui s'est passé samedi. Aujourd'hui, a-t-il dit, l'ordre républicain a été maintenu. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Oui, je partage en tant que citoyen ce constat. Regarde, j'étais sur Paris samedi. Et on était dans une situation qui était quand même très différente de celle du samedi précédent, qui avait été un véritable chaos, accompagné de violences parfois extrêmes.
Est-ce que vous y voyez un lien direct avec les nouvelles consignes qui avaient été annoncées par le gouvernement ?
Oui, j'y vois pour partie un lien, mais je crois qu'il faut faire une analyse plus approfondie de cette situation. D'abord, je pense qu'il faut faire une preuve de mesure, parce que il y avait peu d'adversaires violents ce jour-là déjà, donc c'était plutôt un rodage. Et puis je serais plus sur une analyse de fond d'ordre structurel sur ce qui se passe aujourd'hui en termes d'extrême violence.
Ce sur quoi, Jacques de Maillard, vous n'allez peut-être pas contredire Bertrand Cavalier, c'est-à-dire il faut aussi du recul, il faut avoir de la matière pour juger de l'efficacité ou pas des mesures qui peuvent être annoncées d'un week-end à l'autre.
Oui, parce qu'on court après l'événement depuis le début, donc on a vu qu'on a eu des stratégies très évolutives de la part de la préfecture de police et de la part du gouvernement, avant le 1er décembre, après le 1er décembre, avec une stratégie extrêmement offensive, la modification du dispositif la semaine dernière. Quand on voit ce qui a été proposé la semaine dernière, on se dit qu'effectivement les périmètres interdits ont pu jouer un rôle, mais on avait toute une série d'autres annonces, notamment la décentralisation interne de l'action, c'est-à-dire donner plus de responsabilités au niveau plus opérationnel. En définitive, on sait peu si ça a joué. Ce que l'on sait, c'est que sans doute l'utilisation des militaires de Sentinelle, de l'opération Sentinelle, a été extrêmement limitée. Ça a été plus un effet d'annonce. Il est possible que la dimension du renseignement, c'est-à-dire la capacité que les forces de police ont eu d'anticiper, a été meilleure. Il est également possible que dans ce jeu-là, très complexe entre les mobilisés, les manifestants et le gouvernement, ce jeu d'anticipation, que, voyant la mobilisation du gouvernement, certains d'entre eux choisissent de ne pas manifester, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne manifesteront pas dans une ou deux semaines. Donc c'est une stratégie qui est, enfin c'est une situation qui est extrêmement évolutive.
Voilà, on en est réduit pour l'instant, et c'est normal, à établir un certain nombre, à énoncer un certain nombre d'hypothèses. Vous disiez, Jacques de Maillard, depuis le début, on court un peu après l'événement. Est-ce que vous avez l'impression, Marion Guémas, je rappelle, donc vous êtes responsable des programmes France à la CAT, est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi le cas, peut-être, des pouvoirs publics et du ministère de l'Intérieur, que de courir après l'événement, c'est-à-dire que de définir une stratégie et des tactiques en fonction de ce qui se passe le week-end précédent?
Alors il y a sûrement un petit peu cette tendance-là de la part des autorités. Après, ce qu'on constate, la partie judiciarisation du maintien de l'ordre, la volonté d'interpeller davantage, c'est pas propre au mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qu'on observait déjà auparavant, notamment à l'occasion des manifestations contre la loi travail. Après, effectivement, le fait que les manifestations se répètent semaine après semaine, ça oblige aussi à des adaptations plus rapides pour le ministère de l'Intérieur.
Le Premier ministre est intervenu lundi dernier à la télévision en disant notamment ceci, donc c'était au surlendemain des violences qui avaient eu lieu en particulier à Paris. Nous allons renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre. Renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Bertrand Cavalier ?
Alors, sur ce point-là, je me suis longuement expliqué chez vos confrères. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion. Cette doctrine, elle est stabilisée, elle est très pertinente. Je rappelle les trois grands principes qui sont vraiment fondamentaux. C'est premièrement l'emploi privilégié d'unités professionnelles, de professionnels du maintien de l'ordre qui est un métier. Ce sont donc les gendarmes mobiles et CRS. Deuxièmement, une gradation dans l'emploi de la force. Donc la force strictement nécessaire, sur le principe d'absolue nécessité, et enfin le maintien à distance. Mais ceci n'exclut pas, selon le comportement de l'adversaire, selon son degré de dangerosité et de prédation, de développer des modes d'action plus offensifs, plus dynamiques. Et j'y reviendrai. Donc, mais il ne faut pas remettre en cause cette doctrine. Cette doctrine, elle a trouvé toute son efficacité depuis des années. Il faut surtout pas la perdre de vue.
Quand vous dites qu'il faut pas remettre en cause cette doctrine, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est remise en cause aujourd'hui et qu'elle est remise en cause notamment par le gouvernement quand il est dit, je rappelle cette phrase du Premier ministre, nous allons renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre?
Et c'est la formule, je comprends le sens du message du Premier ministre, et je dirais même que une grande partie de l'opinion publique attendent qu'il y ait quand même, que l'État assure sa mission, parce que il y a quand même une chose à dire avant d'aller sur les modes d'action, de rentrer sur vraiment c'est l'application du maintien de l'ordre. C'est que ce qui s'est passé à Paris est intolérable. C'est-à-dire que, et je cite notamment dans l'ancien Premier ministre, donc Bernard Cazeneuve, qui est tout sauf une personne excitée, qui a bien dit que l'extrême violence s'est emparée de la société française et qu'on est dans un moment historique où tout peut basculer. Je peux vous dire que l'enchaînement de violences depuis des semaines à Paris était de nature à remettre en cause tous nos fondements, le pacte social. Donc tout gouvernement, quel qu'il soit, relevant de quelque majorité que ce soit, a le devoir et avait le devoir de maintenir l'ordre et, en l'occurrence, faire preuve de fermeté. Après, on reviendra sur la façon dont cette fermeté doit se décliner.
Alors j'aimerais justement savoir, et avec Marion Guémas et avec Jacques de Maillard, si vous considérez l'un et l'autre que ce que l'on voit quand même depuis plusieurs semaines se traduit, selon vous, par une remise en cause de cette doctrine du maintien de l'ordre, ou bien est-ce qu'on est quand même toujours dans ce cadre avec, on va dire, des niveaux d'intensité différents, comme le disait Bertrand Cavalier, Marion Guémas?
Oui, je pense que c'est plus effectivement les stratégies d'action sur le terrain qui évoluent, qui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, qui reprennent une tendance qu'on observe depuis plusieurs années et qui s'est effectivement peut-être un peu plus intensifiée ces dernières semaines, notamment la question de la judiciarisation, comme je le disais, de la volonté d'interpeller beaucoup de tous les fauteurs de troubles, les interpeller au moment de la manifestation et pas forcément par la suite. Et cette tendance, en fait, peut, par certains aspects, entrer en contradiction avec la doctrine, puisqu'on sort justement de cette logique d'affrontement, de mise à distance, puisque à l'interpellation, on va au contact. Et donc, la difficulté, c'est aujourd'hui comment garantir l'application des grands principes de la doctrine française du maintien de l'ordre avec les pratiques à l'œuvre sur le terrain.
Oui, parce qu'une des trois règles, un des trois éléments que rappelait Bertrand Cavalier, c'était donc ce maintien à distance des adversaires. Et j'ai vu que l'ACAT avait, dans un communiqué récent, dit ceci: alors que la doctrine du maintien de l'ordre était historiquement fondée sur cette mise à distance de la foule, le développement de logiques d'interpellation au cours d'opérations de maintien de l'ordre participe à l'accroissement des risques d'affrontements physiques, Marion Guémas.
Oui, puisqu'effectivement, on demande aux forces de l'ordre sur le terrain d'aller interpeller dès lors que des infractions sont commises. Alors bien évidemment, les infractions doivent être sanctionnées. La question, c'est quel effet ces interpellations et donc ces forces qui entrent en contact peuvent avoir des incidences sur la vision de l'intervention des forces de l'ordre et donc un peu radicaliser certains manifestants qui vont percevoir ces interpellations comme une volonté de contact physique entre eux et non pas juste faire cesser des troubles.
C'est vrai qu'en tout cas, quand on observe ce qui s'est passé certains week-ends, Jacques de Maillard, la question de la mise à distance, elle semble un petit peu lointaine, disons, en tout cas dans certaines mobilisations.
Oui, quand on regarde en fait la gestion du maintien de l'ordre, et effectivement, il faut inscrire ça dans la durée des évolutions depuis le début des années 2010. Les fondamentaux du maintien de l'ordre restent présents, mais on voit quand même une évolution, de quelques déplacements qui s'opèrent. Il y a effectivement ce qui vient d'être dit sur des stratégies plus proactives d'interpellation qui peuvent également conduire à une logique plus confrontationnelle. L'une des dimensions centrales du maintien de l'ordre, c'est montrer sa force pour ne pas avoir à l'utiliser. Or, quand on regarde, et c'est pour partie dû à une évolution des répertoires d'action des manifestants et pour partie dû à des évolutions internes au sein des forces de l'ordre. Mais quand on voit l'utilisation qui a été faite des LBD, sans se poser la question de est-ce qu'il faudrait suspendre leur utilisation ou pas, mais quand on voit l'utilisation massive qui en a été faite sur ces derniers mois, hein, on est sur 12 000 tirs de lanceurs de balles de défense. C'est plus que sur plusieurs années dans les années qui précèdent. Donc, de ce point de vue-là, on a eu une utilisation de la force qui est peu habituelle dans la doctrine française traditionnelle du maintien de l'ordre. Quand on regarde une deuxième composante du maintien de l'ordre, c'est, Monsieur Cavalier le disait, c'est l'utilisation de forces spécialisées. CRS ou gendarmes mobiles. Or, ce que l'on a vu là, c'est au travers des détachements d'action rapide, c'est l'utilisation de brigades anticriminalité, de compagnies de sécurisation et d'intervention, qui sont des unités qui interviennent d'abord et avant tout sur des violences urbaines et avec des mandats proactifs d'interpellation. Et on voit que c'est eux qui ont utilisé les plus les lanceurs de balles de défense. Quand je dis ça, je dis pas que c'est nécessairement une évolution négative. Ça pose des questions d'articulation, ça pose des questions d'adaptation de la doctrine, ça pose des questions de formation pour ces unités-là. Ça pose aussi des questions de négociation. Le maintien de l'ordre, c'est aussi de la négociation. Or, quand vous avez des manifestants qui ne déclarent pas nécessairement leur manifestation, il y a à revoir tout le dispositif traditionnel de gestion du maintien de l'ordre.
Alors, j'entends que Bertrand Cavalier veut réagir.
Oui, alors la doctrine française, même l'esprit du maintien de l'ordre français, c'est de tout faire pour promouvoir le retour à la normale, une situation normale, qui permettra donc de solutionner une crise par le dialogue. Et donc, c'est même, ça va jusqu'à la capacité d'absorber la violence adverse. Et après, c'est vraiment, je dirais, de la conduite avec des professionnels qui vont bien sentir le mouvement, qui vont doser l'emploi de la force, avec une relation qui doit rester très humanisée, dans la plupart des cas. C'est-à-dire que, je donne un exemple simple, on ne doit pas porter de cagoule. S'agissant de la gradation dans l'emploi de la force et de l'emploi de force spécialisé, mais tout est lié. Ces dards qui sont composés souvent de jeunes policiers issus des commissariats de police de Paris.
Donc je rappelle, un détachement d'action rapide pour les dards.
Oui, alors cet acronyme a été abandonné, mais il y a eu un problème que j'ai souligné dès le départ, dès le 8 décembre, sur certaines radios, sur certaines chaînes de télévision. J'exprime mon interrogation quant à un emploi privilégié, massif de CEDAR, non formé, et un emploi qui me semblait excessif, notamment des lanceurs de balles de défense, sachant que le LBD, je connais très bien cette arme qui est très précise. Or là, manifestement, il y a eu une problématique. Donc je pense que depuis, les choses semblent revenir revenir dans le bon sens. Maintenant, s'agissant de ce qui s'est passé, est-ce qu'on était dans un cadre classique de maintien de l'ordre ou est-ce qu'on est allé, on a débouché sur des situations de véritables émeutes qui se sont traduites par un certain dépassement des forces de l'ordre, il faut le dire. Donc tout doit être remis à plat dans un contexte sociétal qui est marqué profondément par la violence, tant au travers de ces manifestations que dans le cadre du quotidien. La violence aujourd'hui est banalisée. Ce n'est pas non simplement ces grands rassemblements, c'est le gendarme, le policier dans l'action quotidienne est confronté maintenant à une agressivité croissante. Moi j'ai une fille qui est gradée dans une brigade, elle me raconte ses journées, le simple contrôle d'une personne aujourd'hui devient problématique.
Alors on va aller justement dans un instant sur les pistes peut-être de remise à plat. On verra si c'est une remise à plat de la doctrine du maintien de l'ordre. Mais pour rester encore un peu sur le constat que vous faites les uns et les autres, et notamment vous, Marion Guémas, là aussi sur cette idée d'avoir des unités spécialisées et formées pour maintenir l'ordre, le constat de la CAT, il est assez proche de celui que vient de faire là encore Bertrand Cavalier et que faisait tout à l'heure Jacques de Maillard, c'est-à-dire des personnels qui, au moins au départ, en tout cas, n'étaient pas peut-être pas suffisamment formés pour ces actions-là, et avec le constat que ce sont ces unités qui ont utilisé le plus massivement les lanceurs de balles de défense.
Oui, en tout cas, c'est ce qui ressort des informations qui sont apparues, notamment dans le rapport qui a été fait dans le cadre de la proposition de loi au Sénat contre les LBD, ou dans le rapport, le mémorandum qu'a publié la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, c'est qu'effectivement, ces forces spécialisées ont effectivement pas cette culture du maintien de l'ordre, ils sont tout simplement pas formés à cette stratégie-là, et donc ils entrent plus rapidement dans une logique d'interpellation, et donc qui peut être perçue comme une confrontation. Et il faut se poser la question effectivement du nombre de forces spécialisées qu'on a aujourd'hui en France pour prendre en charge les manifestations, dont les effectifs avaient sensiblement diminué il y a une dizaine d'années. On mobilise aussi beaucoup de forces spécialisées, ça avait été également mis en avant par le Défenseur des droits, pour des opérations notamment de lutte contre le terrorisme ou de contrôle des frontières. Et donc, le jour où il faut mobiliser les forces spécialisées, elles ne sont pas disponibles.
Ce maintien de l'ordre, est-ce qu'il doit évoluer en fonction de la violence qui serait plus importante du côté des manifestants, Marion Guémas, ou est-ce qu'il y a aussi, disons, une responsabilité partagée? C'est-à-dire, est-ce que la violence, elle est aussi du côté de ceux qui maintiennent l'ordre, avec peut-être la difficulté de savoir qui est responsable à l'origine de ces changements? On voit bien quand même que, en tout cas, la recherche du dialogue, c'est pas ce qui se manifeste le plus visiblement dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes aujourd'hui.
Alors, je suis pas la mieux placée peut-être autour de la table pour en parler, mais historiquement, il y a eu des mouvements sociaux au moins aussi violents que ceux qu'on connaît actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de manifestations qui sortent du cadre traditionnel, donc c'est-à-dire que notamment les grandes manifestations syndicales avec des services d'ordre, des manifestations déclarées, très très organisées. Là, on a des mouvements sociaux qui sont différents et qui effectivement obligent les forces de l'ordre à pratiquer un maintien de l'ordre qui est différent et donc qui nécessite des adaptations pour permettre en fait ce dialogue permanent, y compris quand initialement certains mouvements sociaux ne sont pas dans cette logique-là. Mais je pense qu'il revient aux forces de l'ordre qui s'occupent du maintien de l'ordre de favoriser ce dialogue, y compris quand à la base c'est pas la volonté de certains manifestants.
Jacques de Maillard.
Oui, pour aller dans un même sens, ce qui a fait la réussite du maintien de l'ordre historiquement, qu'on qualifie parfois d'à la française, c'est comment est-ce qu'on est passé de mobilisation violente à des mobilisations encadrées, avec la mise en place de négociations entre les autorités préfectorales, avec la mise en place de forces spécialisées, et avec quand même cette idée de négociation constante avant, pendant, les manifestations. Or, aujourd'hui, on est devant de nouvelles formes de contestation qui ne respectent pas ces règles classiques, qui peuvent ne pas déclarer une manifestation, qui n'ont pas de parcours, qui n'ont pas de porte-parole, qui n'ont pas de service d'ordre. Donc la réponse jusque-là, on la voit pas très bien se dessiner, c'est-à-dire que Elle est très évolutive, elle repose beaucoup jusque-là sur l'utilisation de la force, qui est en fait l'utilisation de la force, le résultat de l'absence d'autres réponses. Donc, de ce point de vue-là, il faut rappeler que ce qui a fait la réussite du maintien de l'ordre, ça a été la capacité d'établir des relations de communication qui font qu'on ne reste pas sur une simple relation d'utilisation de la force entre les policiers et les manifestants. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu très fort. Je parle quand même des forces spécialisées. C'est vrai qu'en France, on a une spécificité, c'est qu'on a à peu près 25 000 agents spécialisés dans le maintien de l'ordre. Gendarmes mobiles d'un côté, compagnie républicaine de sécurité de l'autre. C'est une spécificité française qui nous a plutôt soutenus, renforcés, singularisés. Ça a été plutôt un succès. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que d'autres pays ont recours à des forces peut-être moins spécialisées, mais qui sont également formées. Ce qui pose aujourd'hui question, c'est que sur toute une série de manifestations, pour plein de raisons, effectivement, le terrorisme, d'autres missions confiées, les forces spécialisées ne suffisent pas. Et aujourd'hui, on n'a pas pensé l'articulation, on n'a pas pensé la formation qui permet de réfléchir à une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, qui permet de mieux intégrer cette diversité des forces et effectivement de ne pas exposer des policiers non formés à des interpellations sans doctrine claire d'utilisation raisonnée de la force.
La réponse...
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Et on s'intéresse ce soir à la question du maintien de l'ordre en compagnie de Jacques Demaillard, qui est le directeur adjoint du CESDIP, Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, avec Marion Guémins, responsable des programmes France à l'ACAT, l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, et Bertrand Cavalier, qui est à Montpellier, général de gendarmerie, ancien commandant du Centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Bertrand Cavalier, est-ce que aujourd'hui le maintien de l'ordre à la française ne souffre pas peut-être d'une forme de nostalgie, c'est-à-dire de rester un peu trop sur ce qui a fait sa spécificité et ce qui en a peut-être fait un modèle pour d'autres pays européens, mais qui n'est plus adapté aujourd'hui à la façon dont se mobilisent les citoyens. En tout cas, une des façons dont se mobilisent les citoyens, c'est-à-dire sans porte-parole identifiée, sans passer par les corps intermédiaires.
Je ne pense pas. Je crois qu'en fait, la solution ne se situe pas simplement dans la réponse de force, dans la manœuvre opérationnelle proprement dite. J'observe ce qui se passe dans d'autres pays comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne où on réinsiste sur le cadre juridique, ce qui encadre le droit de manifester. Le problème qui a été souligné tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on est dans une très grande confusion, une grande incertitude. Mettez-vous à la place d'un préfet aujourd'hui responsable de l'ordre public avec des individus qui ne déclarent plus leur manifestation, alors que il y a une loi qui le précise. On est quand même dans un cadre républicain. Il y a une loi expression de la volonté générale qui doit s'appliquer à tous. Donc les autorités sont incapables, de plus en plus incapables d'anticiper, de prévoir ces regroupements qui sont d'ailleurs pas toujours autorisés, peuvent basculer en attroupement dès lors qu'il y a des menaces à l'ordre public. Dès lors, là, il faut quand même gérer le déploiement des forces, si vous voulez. Aujourd'hui, il faut quand même que le citoyen accepte les lois de la République et qu'il accepte également qu'il y ait ce vivre ensemble qui se traduit par le respect des lois fondamentales. C'est en fait le préalable à toute chose. Maintenant, pour ce qui s'est passé notamment sur Paris ou dans certaines villes de province, il faut bien comprendre qu'on a affaire à des noyaux, à ce que j'appelle ces milices d'ultra-violents, qui sont sur une idéologie de la violence, une idéologie de la destruction, une idéologie de l'affrontement, notamment contre les forces de l'ordre. Et ce qui doit amener aujourd'hui les autorités à avoir une réponse qui intègre le renseignement, l'anticipation, des manœuvres de force, des manœuvres opérationnelles plus adaptées, sans remettre en cause nos grands principes, qui visent à agir beaucoup plus vite. Plus vite vous intervenez, moins il y a de confrontations.
Et peut-être et aussi, enfin, le traitement... et pardonnez-moi Bertrand Cavalier, mais est-ce que c'est pas aussi agir de manière un peu plus ciblée? On a quand même l'impression qu'il y a une réponse qui est un peu une réponse indifférenciée. Quand on voit par exemple que ce week-end était annoncé, alors je sais pas si ça a été utilisé d'ailleurs, mais alors des marqueurs chimiques incolores, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut les appeler. C'est-à-dire ça c'est quelque chose que vous pouvez pas faire, comment dire, de la dentelle quand vous utilisez ce type de procédé. Ça s'adresse à tout le monde et y compris pendant
Non, parce que vous avez des dispositifs. Après, c'est Vous pouvez donc quand même cibler, individualiser la réponse, notamment avec ces nouveaux matériels. Mais je terminerai par la réponse judiciaire. La réponse judiciaire, je prends l'exemple des gendarmes qui ont été caillassés avec des pavés. L'un d'eux a eu la mâchoire fracturée, portera une plaque toute sa vie. Ces individus doivent être interpellés. On est aujourd'hui dans une absence de logique. Dès lors qu'il n'y a pas de réponse à cela, où va le vivre ensemble? Où va notre démocratie? Donc il y a des gens ultra-violents et qui n'ont certainement d'ailleurs rien à voir avec la majorité des gilets jaunes, même si une partie des gilets jaunes, selon un effet d'entraînement, ont basculé dans la violence à l'occasion de certains rassemblements à Paris. Il faut voir les choses de façon claire, de façon responsable et de façon lucide et réaliste.
Est-ce que vous la voyez de la même façon, est-ce que vous voyez les choses de la même façon, Marion Guémas?
Les violences contre les forces de l'ordre doivent bien évidemment être sanctionnées, mais je pense que les personnes qui sont interpellées et qui sont jugées pour ces faits, dès lors qu'ils sont avérés, sont sanctionnées et durement sanctionnées. La question, c'est effectivement la proportion de la force qui est opposée. Et quand bien même les forces de l'ordre sont victimes de violences qu'il faut condamner et qu'il faut sanctionner, on peut pas dire, parce qu'il y a un gendarme ou un policier qui est blessé, c'est normal que derrière on ait une force qui soit déployée de manière inconsidérée et disproportionnée. C'est bien évidemment, les forces de l'ordre sont exposées à de la violence,
mais qu'appelez-vous force
le moins possible, mais il faut pas...
Qu'appelez-vous dispositif qui soit... Qui n'est pas proportionné. Je voudrais que vous m'expliquiez concrètement, lorsque vous avez à protéger Paris, qui a subi des dommages considérables, dont sont victimes nombre de commerçants et qui portent atteinte à l'économie, que faites-vous dans une telle situation?
Écoutons la réponse de Marion Guémas.
Je fais référence à certaines vidéos. Alors bien évidemment, avec toutes les précautions qu'il faut prendre avec des morceaux tronqués de ce qui a pu se passer, où on a parfois des forces de l'ordre qui ont recours soit à des lanceurs de balles de défense, à des coups de matraque, etc., qui ne paraissent pas justifiés au moment où ils sont pratiqués sur un manifestant qui est déjà entravé et maîtrisé par un autre policier ou un autre gendarme qui est au sol, sur des personnes qui ne représentent visiblement aucun danger et sur lesquelles il y a une projection de lanceurs de balles de défense. La difficulté, c'est un exercice qui est très 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 difficile et les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre sont compliquées et qu'il faut le reconnaître. Le problème de la disproportion de la force qui peut être utilisée dans certains cas, malheureusement, en l'absence de discours politique fort sur le sujet, ne peut que dégrader l'image des forces de l'ordre et c'est bien dommage.
Bertrand Cavalier, brièvement, et ensuite je repasse à Jacques de Maillard.
Très rapidement, je fais la différence entre un dispositif, je crois que c'était la disproportion d'un dispositif. On est obligé aujourd'hui de déployer des dispositifs massifs. Ce sont d'énormes contraintes d'ailleurs pour les gendarmes et les policiers qui sont activés tous les week-ends. Maintenant, sur la gradation d'emploi de la force et le discernement, je suis d'accord. Il y a eu là, ça et là, des gestes que je ne peux pas approuver. J'ai formé des milliers de gendarmes. Le premier enseignement, il est d'ordre éthique et déontologique à Saint-Acier. Donc, sur ce plan-là, je comprends tout à fait son interrogation.
Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, Jacques de Maillard, dans l'évolution, alors là on sort un petit peu de la doctrine de maintien de l'ordre, mais par rapport à l'évolution qui peut être celle de l'image aussi de la police, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas le risque que les manifestants voient aujourd'hui les forces de l'ordre comme des forces qui ne sont pas là pour les protéger, mais qui leur font risquer pour leur intégrité physique? Est-ce que cette évolution-là, vous la constatez sur la longueur?
Il y a un double risque. Le premier risque, c'est que, et on a vu que ça pouvait se dessiner à un moment donné, c'est que ce qui rassemble en définitive les mobilisations des Gilets jaunes, c'est les violences policières. Donc en fait, les violences policières de moyens pour encadrer deviennent... La raison des mobilisations. Le deuxième risque, et ça renvoie à la question du ciblage de l'intervention, c'est que effectivement, ce sont des mobilisations extrêmement polymorphes, mais vous avez à la fois des gens qui peuvent être là pour casser, d'autres gens qui sont là pour manifester de façon pacifique, et on a un certain nombre d'exemples où ces gens-là qui sont venus pour manifester de façon pacifique ont pu être l'objet de violence, et des gens qui sont dans un entre-deux. Donc, de ce point de vue-là, il y a un enjeu et qui est, je le reconnais, extrêmement complexe pour les forces de l'ordre d'arriver à avoir des interventions qui sont ciblées, parce que toutes les théories de la foule ont montré que la foule, elle n'est pas unique, et donc il faut arriver à tenir compte de des singularités internes dans les interventions policières. Et pour une partie d'entre eux, c'est-à-dire toute une série de manifestants qui, en définitive, sont venus pour manifester, maintenir en permanence une communication pour expliquer l'intervention des forces de l'ordre. Expliquer l'intervention des forces de l'ordre parce qu'elle n'est pas du tout lisible sur le terrain. Quand vous avez des gaz lacrymogènes, quand vous avez des interventions directes, des sommations. Et de ce point de vue-là, il y avait toute une série de rapports qui avaient été produits suite à Sivens de la part de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, de la part de l'inspection générale de la police nationale sur la modernisation du régime des sommations. Vous avez beaucoup d'exemples étrangers sur la communication où ça, c'est un chantier absolument fondamental. Je termine sur un point important, c'est la mobilité. C'est-à-dire que on a, et je crois que le général Cavalier sera d'accord avec moi, c'est-à-dire que on a des dispositifs de maintien de l'ordre qui sont des dispositifs très solides, mais pas très mobiles, et notamment à Paris. Et quand vous avez des manifestants qui, eux, sont très mobiles, vous avez beau avoir mobilisé un dispositif de maintien de l'ordre avec beaucoup d'effectifs, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces beaucoup d'effectifs, une bonne part d'entre eux, n'est pas assez mobilisée pour les interventions. Donc, de ce point de vue-là, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on encadre la décentralisation de la décision à l'intérieur des effectifs de maintien de l'ordre.
Même si la mobilité, c'était quelque chose qui était revendiqué par celui qui est désormais l'ancien préfet de police de Paris, Michel Delpech, c'est il y a un petit peu plus d'un an sur LCI, il expliquait, alors il parlait de la mise en place de la cellule Synapse, qui était cellule censée justement adapter le maintien de l'ordre aux nouvelles formes de mobilisation. Il disait ceci: j'ai souhaité éviter de mettre contact ou même à vue du cortège de tête les forces de l'ordre. Il faut être en capacité de réagir très vite, mais pas de se mettre dans une situation où nous sommes des cibles. Vouloir faire du saut dessus, ça peut être dangereux pour les policiers et pour les manifestants. Marion Guémas et ensuite Bertrand Cavalier.
Oui, je voulais rebondir sur la question de la communication. Je pense qu'effectivement, c'est un gros chantier qui doit être opéré, alors qui est moins visible, et donc peut-être que médiatiquement, pour le ministère de l'Intérieur, c'est moins tentant. Mais la question, c'est qu'on a quand même l'impression aujourd'hui que, donc, au-delà des formes de mobilisation qui sont différentes de groupes, de mobilisation ou qui ne respectent pas les cadres traditionnels, c'est comment faciliter la communication des forces de l'ordre, des actions qui sont en cours. Et mieux expliquer la dispersion. Je pense qu'il y a une fausse idée de ce que les gens ont effectivement comme culture de la manifestation.
Et je pense que c'est pas parce qu'il n'y a pas de porte-parole identifiée qu'il peut pas y avoir de communication avec la foule.
Je pense en tout cas, alors il faudra peut-être un peu de temps pour l'analyser avec précision, mais je pense qu'il y a beaucoup de manifestants qui sont venus à Paris dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes qui n'avaient pas forcément de culture de la manifestation et qui, par exemple, tout simplement ne savent pas qu'on manifeste pas sur les Champs-Élysées. Alors pour eux, c'est un symbole politique qui est important, mais qui, dans la pratique habituelle du maintien de l'ordre à Paris, ne se fait pas. Le régime des sommations qui ne sont pas forcément connus ou qui ne sont pas entendus parce que les forces de l'ordre n'ont pas les dispositifs adéquats pour le faire. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur cette culture de la manifestation à avoir et que tout le monde n'a pas, ce qui peut créer en fait des situations d'incompréhension. Il est important d'améliorer la communication.
Bertrand Cavalier, dans un ouvrage de deux collègues de Jacques Demaillard, Fabien Jobard et Olivier Filleul, ouvrage intitulé « Police, questions sensibles » qui a été publié au PUF il y a quelques mois de cela, j'avais été frappé notamment par l'exemple qui était donné de ce qui se passe en Allemagne, où, disent les auteurs, les manifestations ne sont pas moins musclées, voire violentes que ce qui peut exister en France. On se souvient par exemple ce qui s'est passé avec le G8 ou le G20, je crois que c'était le G20 à Hambourg. Mais il y a une différence, c'est justement la communication avec des véhicules, avec des haut-parleurs qui expliquent à la foule comment il faut faire. Il y a des écrans LED là aussi où la foule peut se repérer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui de communication de la part des forces de l'ordre à l'égard des manifestants?
Bon. D'abord, l'exemple allemand, attention, c'est une sociologie totalement différente. Et puis actuellement, il y a quand même de plus en plus d'affrontements. Mais pour revenir à votre questionnement, bon, moi, je partage l'analyse du professeur Demaillard et également celle de Marion Guémas sur plusieurs points. D'abord, c'est vrai qu'il faut peut-être enseigner la culture de manifestation et il faut que l'encadrement des manifestations soit plus lisible, s'agissant notamment de l'administration des sommations. Les sommations, c'est un acte essentiel, c'est un acte juridique qui permet d'obliger des individus à quitter des lieux. Bon. Et qui justifie après l'emploi de la force. Donc là, il y a peut-être, vous avez raison, une piste. Pour revenir également sur les unités, là on va parler de tactique, et notamment sur la préfecture de police, le fait que les unités étaient trop trop statique et laisser faire, il y avait cette lourdeur de la chaîne de commandement et un manque de subsidiarité, se traduisait en fait par des grandes difficultés face à une situation qui allait se dégrader, alors que si on intervient dès le départ, on peut isoler les éléments les plus violents, on peut dissocier, on peut discriminer. Dès lors que c'est un désordre général, la situation est beaucoup plus complexe à gérer. Donc ce qui se fait actuellement sur la plaque parisienne, eh bien, va tout à fait dans le bon sens, c'est d'arrêter d'avoir une gestion qui est trop centralisée, de laisser les professionnels du maintien de l'ordre apprécier la situation et pouvoir intervenir très rapidement. S'agissant de l'appréciation de la situation, moi je suis allé sur le terrain, je peux vous dire que les gendarmes mobiles discutaient avec la plupart des manifestants. Donc il ne faut pas croire que ce caractère très humanisé du maintien de l'ordre à la française soit abandonné. Quant aux Allemands, ils ont une autre technique, ils vont au contact directement ils sont assez violents dans la gestion de la dispersion des foules.
Jacques de Maillard, est-ce qu'en tout cas à l'étranger, alors si ce n'est en Allemagne mais peut-être ailleurs, il y a des exemples qui peuvent être intéressants sans forcément vouloir les dupliquer à l'identique avec ce qu'on peut connaître en France, mais en tout cas des pays où il y aurait une prise en compte un peu différente par exemple de ce que sont les nouvelles formes de mobilisation. Je ne sais pas si on va du côté du Royaume-Uni par exemple, qui en matière de maintien de l'ordre est un des pays qui est souvent donné en exemple.
Il y a eu un réseau européen qui s'est réuni et que mes collègues, effectivement, Olivier Filleul, Pascal Viaud, qui avaient étudié, qui ont bien montré l'évolution, l'échange des bonnes pratiques entre les polices européennes, avec un modèle qui repose sur la communication, qui repose sur plus de ciblage, qui repose sur la facilitation des manifestations. Et effectivement, il faut être aussi prudent dans l'utilisation de ces bonnes idées, parce que les contextes nationaux sont pas nécessairement les mêmes. Moi, ce que je retiens, c'est que effectivement, en Angleterre, on a une vraie réflexion qui est conduite actuellement autour de l'établissement du dialogue et la difficulté de maintenir le dialogue sur toute la durée d'une manifestation. Et je pense que de toute façon, ce qui a permis au maintien de l'ordre d'évoluer, ça a toujours été de combiner l'utilisation de la force, si besoin, et la communication. Et en Angleterre, il y a, de ce point de vue-là, une vraie réflexion qui est conduite, notamment à partir de l'exemple du football et du hooliganisme, qui a été quand même l'un des problèmes de la police des foules traditionnelle, et pour lequel il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui qui sont en train d'être mises en place, avec des officiers de liaison côté police, et avec des interlocuteurs côté supporters, et qui reposera beaucoup plus sur la négociation que sur l'usage de la force. Ce qui me conduit à un deuxième commentaire, dont on peut s'inspirer pour l'Angleterre, c'est que le ministre de l'Intérieur a annoncé une réflexion à venir sur le maintien de l'ordre en France. Et ce que j'ai vu jusque-là des personnalités qui pourraient être mobilisées sur cette réflexion sur le devenir du maintien de l'ordre, ce sont d'anciens magistrats, des policiers, des gendarmes, d'anciens policiers, d'anciens gendarmes. C'est-à-dire qu'on reste dans une
partie pertinent, non ?
On reste dans une réflexion qui est très interne au ministère, qui est très interne à l'État. Et ce que je vois, moi, dans l'évolution du maintien de l'ordre, c'est que des universitaires spécialisés dans le maintien de l'ordre ont une contribution. Des maires confrontés aux enjeux de maintien de l'ordre, des associations impliquées sur les enjeux de maintien de l'ordre. Donc, il faut absolument ouvrir cette question du maintien de l'ordre au-delà des seuls cercles des institutions régaliennes.
Une toute dernière chose, Marion Guémas, par rapport aussi à ce qui peut relever de la responsabilité alors individuelle des manifestants. Le chef de l'État a évoqué le cas de cette manifestante avant-hier à Nice, qui a été blessée, qui est tombée. Elle participait alors à un rassemblement qui n'était pas autorisé. Il a dit notamment ceci, quand on est fragile, parce qu'elle a plus de 70 ans, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Vous en pensez quoi ?
Alors, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est, elle est tombée. Genre, je ne sais pas le test, si c'était dans le périmètre qui était interdit ou pas. Toujours est-il que je pense qu'on a le droit de manifester. Alors, au-delà de 7 à 77 ans, je pense que tout le monde devrait pouvoir exercer cette liberté. La question, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est comment concilier justement cette volonté de se mobiliser, de manifester avec le maintien de l'ordre pour que chacun puisse être sur la voie publique en toute sécurité.
Eh ben merci en tout cas beaucoup à tous les trois de nous avoir donné un petit peu de réflexion sur ces sujets extrêmement brûlants. Marion Guémas, Bertrand Cavalier et Jacques de Maillard, les références des uns et des autres, les liens vers vos sites Les références bibliographiques, c'est sur notre site France Culture, à la page du Grain à Moudre. Merci aux équipes de France Bleu Hérault à Montpellier qui assuraient le duplex. Ici, c'était Emmanuel Morse d'Incan. Merci également, bien sûr, à l'équipe du Grain à Moudre, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Cyril Marchand, émission réalisée par Peyret Legras. Dans 3 minutes, ce sera la dispute avec vous, Arnaud Laporte.
On ne peut rien vous cacher avec Arlette, nous allons parler de ce théâtre ce soir essentiellement. Quelle sera donc la question du Grain à Moudre demain ?
Demain, nous nous intéresserons au couple franco-allemand, puisqu'avait lieu aujourd'hui la première assemblée parlementaire franco-allemande, c'était en France. Est-ce que la France et l'Allemagne sont ensemble malgré tout ? Ce sera notre question demain, 18h20.